Com. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Et on parle foot, des quarts de finale, retour spectaculaire en Ligue des Champions. Paris et Barcelone se qualifient en se faisant un peu peur.
Oui, les Parisiens d'abord battus sur la pelouse d'Aston Villa, 3-2 mais qualifiés, tout comme le FC Barcelone dont le matelas de 4 buts acquis à l'aller a fondu face à Dortmund. Les jaunes et noirs emmenés par un Serhou Guirassy de gala, auteur d'un triplé pour le succès, 3-1 du Borussia, pas suffisant. Le Guinéen en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations, il ne fera pas mieux, son équipe étant éliminée, mais c'est la fierté qui prédomine.
Je peux être fier, mais franchement pour moi, comme j'ai dit à maintes reprises, c'est pas parce que ce soir je suis meilleur buteur et je mets un triplé, non, je crois en moi, je sais que je peux batailler dans ce genre de compétition, je l'ai montré ce soir. Après voilà, il y a des matchs où tu loupes des occasions, mais c'est comme ça, même les plus grands ils loupent des occasions, mais ouais, bien sûr que je suis content et c'est une fierté.
Serhou Guirassy chez nos confrères de Canal+, ce mercredi, le reste des quarts de finale retour à 19h temps universel, Inter Milan, Bayern Munich et Real Madrid Arsenal.
En Afrique, le Mali en finale de la CAN U17.
Les Aiglonais vainqueurs du Burkina Faso, 2-0 en demi. Ibrahim Diakité, le milieu de terrain, savourait la victoire mais pense déjà à la finale de dimanche.
Ouais, c'était un match difficile, tous les matchs sont difficiles, mais on est très content de se qualifier aujourd'hui comme tous les autres matchs. On a pu se qualifier, on est en finale. On va bien jouer et prendre la Coupe, Inch'Allah.
Ibrahim Diakité avec François Imfer Kataji. En finale, les Maliens affronteront le Maroc, vainqueur au tir au but de la Côte d'Ivoire.
Et une découverte pour finir avec le premier championnat africain de flag football.
Un sport qui fera son apparition aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Un dérivé du foot américain sans plaquage, remplacé par l'arrachage de bandes de tissu fixées à la ceinture des adversaires. Le premier championnat d'Afrique sous l'égide de la Fédération internationale et de la puissante NFL, la Ligue nord-américaine aura lieu au Caire. Une étape importante en vue des JO, Christophe Dirémillon.
Ajouté au programme olympique en octobre 2023, le flag football avait besoin d'un rendez-vous fédérateur en Afrique pour y accélérer son implantation. L'Égypte, où la pratique attire de plus en plus, servira donc de première vitrine à un sport simple et accessible au continent, rappelle Pierre Trochet, le président de la Fédération internationale de football américain.
Le fait de pouvoir jouer à l'intérieur, en extérieur, d'avoir un nombre de joueurs plus limité, 10 à 12 joueurs sur le roster, 5 sur le terrain, et puis les règles du jeu, 4 tentatives pour le milieu, 4 tentatives pour les marquer, et je vous ai expliqué 50% des règles en 30 secondes. Et en plus, on vient y rajouter une dimension paritaire et inclusive pour tous les publics et dans tous les événements qui est fantastique.
Pour compléter ce championnat, des tournois de jeunes et des séances de détection mettront en lumière le programme conjoint de la NFL et de l'IFAF de structuration sur le long terme, formation d'encadrants comprise. Pierre Trochet.
On vient de clôturer un camp de développement à Accra au Ghana avec une cinquantaine de participants de toute l'Afrique pour les entraîneurs d'équipes nationales et les arbitres qui pourront officier à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a un élément, je veux faire partie moi de l'équipe nationale, je veux gagner des médailles, mais on supporte nos fédérations en Afrique, entre compétitions, la structure, la logistique, on est bien évidemment là pour les soutenir toute l'année.
Même si le flag football perce essentiellement dans les pays anglophones, plusieurs nations francophones auraient déjà manifesté leur intérêt pour cette CAN, qualificative pour le Mondial 2026, une compétition à laquelle seul le Cameroun a déjà participé pour l'Afrique l'an passé.
Et ce premier championnat d'Afrique de flag football, ça sera au Caire les 20 et 21 juin prochains.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
On l'apprend aujourd'hui, la Chine a nommé un nouveau patron pour les négociations sur le commerce, et cela en pleine escalade avec les États-Unis sur les taxes douanières. Selon la Maison Blanche, la balle est désormais dans le camp chinois, dans le contexte du coup de la guerre commerciale en cours. Pardon, 145% de droits de douane sont désormais en vigueur pour tout produit chinois importé aux États-Unis. Et Pékin a annoncé hier la suspension de toute réception sur son sol d'avions fabriqués par Boeing. L'Américain. Le président chinois, lui, poursuit sa tournée en Asie du Sud-Est. Après le Vietnam, Xi Jinping est en Malaisie. Cette tournée qui a pour but de renforcer le rôle de Pékin comme partenaire avec ces pays. Le patron de l'OMS salue cette nuit une étape importante dans le voyage commun vers un monde plus sûr. Ce sont ses mots pour qualifier l'accord trouvé entre pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Un texte visant à mieux se préparer et mieux lutter contre les futures pandémies. Et cela 5 ans après après la crise mondiale du Covid-19. L'ancien président péruvien Ollanta Humala a été condamné hier à 15 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption lié au géant brésilien du BTP Odebrecht. En Corée du Sud, la police a perquisitionné ce mercredi l'ancien bureau du président destitué Yoon Seok-yeol. Et puis à la une également cette remontée des tensions entre Paris et Alger, on en parle tout de suite. Et c'est à nouveau l'escalade donc entre l'Algérie et la France. 12 agents consulaires et diplomates algériens vont être expulsés par la France. Une réponse calquée selon la présidence française sur l'expulsion par l'Algérie de 12 de ses fonctionnaires. Et Paris a aussi annoncé hier le rappel de son ambassadeur pour consultation. Après le coup de fil entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune il y a deux semaines, après la visite à Alger de Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, l'apaisement qui s'était pourtant installé vole donc en éclat. Analyse de ce revirement ce matin avec notre invité Lies Djebaili, militant franco-algérien aujourd'hui à la tête en France du collectif Algérie Droit Devant. Il répondait à Christophe de Boisbouvier.
Lies Djebaili, bonjour.
Bonjour.
Comment réagissez-vous à cette nouvelle escalade entre l'Algérie et la France ?
C'est regrettable, c'est incompréhensible. Les relations franco-algériennes s'acheminaient vers une détente, vers un dégel. Et puis, subitement, les relations se crispent davantage. Manifestement, on a l'impression que les deux présidents, M. Macron et M. Tebboune, malgré leurs relations personnelles, sont de bonnes relations, mais ils n'arrivent pas à se parler comme naguère. Bouteflika avec M. Chirac. Là, c'est quelque chose d'inédit, du jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 1960. Le rappel des ambassadeurs côté algérien et côté français, l'expulsion de 12 agents consulaires et diplomatiques français et algériens ouvre la voie vers la rupture des relations diplomatiques.
Vous craignez une rupture, hein ?
Je crains cette rupture entre la France et l'Algérie parce que c'est inédit depuis 62, une fermeture des deux côtés. Les ripostes s'enferment de part et d'autre. Voilà, espérons de jours meilleurs pour les relations franco-algériennes. Après tout, ce sont des relations historiques, profondes, où s'entremêlent les relations de famille, les relations de culture, du sang, ainsi de suite. Voilà. En tout cas, en tant que militant, en tant que franco-algérien aussi, l'Algérie, c'est mon pays de naissance et la France aussi, c'est mon pays d'adoption. Et je me sens aussi bien qu'algérien que français. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle de tous mes voeux pour le dégel de ces relations et revenir, tant soit peu, à la sagesse.
Alors, il y a 8 jours après le coup de fil Tebboune-Macron et la visite à Alger du ministre Barrot, tout le monde pensait que les deux pays allaient reprendre le dialogue, la coopération. Et puis, depuis ce week-end, patatras, l'Algérie décide d'expulser 12 agents français et la France réplique, comme vous le savez. Comment expliquez-vous ce nouveau raidissement ?
Moi, je rappelle, en tant que militant des droits humains, en tant que militant pour la démocratie, pour l'établissement d'un état de droit et de citoyenneté dans mon pays, dans un état de droit, la justice, elle est indépendante. Honnêtement, je ne sais pas les détails de cet enlèvement de l'influenceur algérien
Amir DZ, oui, et donc de la mise en examen et de l'arrestation vendredi dernier par la justice française de 3 Algériens de France, dont un membre du consulat d'Algérie à Créteil, près de Paris.
Oui, mais ces 3 personnes qui sont impliquées dans l'enlèvement, personnellement, en tant que citoyen, j'appelle à l'indépendance de la justice, parce que nous militons pour une justice indépendante dans notre pays d'origine, en Algérie. Laissons la justice faire son travail. La justice en France est une justice indépendante. Je ne pense guère qu'elle soit soumise, assujettie à l'exécutif, mais j'appelle aussi bien l'Algérie et la France de retrouver les chemins de la sagesse pour renouer un dialogue égal à égal pour le bien-être de l'Algérie, de la France et des deux peuples algériens et français.
Donc vous pensez qu'après l'arrestation de cet agent algérien du consulat de Créteil, Alger n'était pas obligé d'expulser 12 agents français d'Algérie ?
C'est une décision qui était lourde de conséquences suite à une décision de justice. Et c'est un yo-yo diplomatique, on retombe dans les travers alors que nous étions tous heureux que les relations franco-algériennes repartiraient de plus belle.
Est-ce que le fond du problème, Lies Djebaili, ce n'est pas la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France ? C'était il y a 9 mois.
Oui, chaque pays souverain dans la prise de sa décision. Maintenant, est-ce que la France aurait pu garder sa neutralité, rester neutre? Est-ce que cette reconnaissance, elle est passée par le Parlement? On se demande, moi je me demande en tant que citoyen, sachant les conséquences de cette reconnaissance. La France, c'est un grand pays qui a toujours su garder une certaine neutralité. Monsieur Macron aurait pu garder cette neutralité vis-à-vis de cette question du Sahara occidental. C'est une question qui dépend de l'ONU. C'est une question de décolonisation, elle dépend de l'ONU. D'ailleurs, entre les deux ministres des Affaires étrangères français, M. Barrot, et le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf, il y avait un communiqué conjoint que la question du Sahara occidental, elle dépendait de l'ONU. Voilà.
Lies Djebaili, je vous remercie.
Entretien avec Christophe Boisbouvier. RFI, votre chronique matière première est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En réponse aux droits de douane américains déjà en vigueur, la Chine a imposé la semaine dernière des restrictions sur l'exportation de terres rares. Et on parle ce matin des conséquences que ça a eu sur les compagnies minières australiennes dont les actions ont grimpé. Marie-Pierre Olfan, est-ce que l'Australie pourrait profiter des perturbations du commerce mondial de terres rares ?
Alors oui, le pays se positionne déjà depuis plus de 10 ans comme un fournisseur clé de métaux et notamment de terres rares. Il en est même devenu un producteur majeur. En 2022, l'Australie était par ailleurs classée 6e pour ses réserves. Cela n'a pas échappé aux investisseurs qui soutiennent les grands noms du pays qui exploitent déjà ces minerais. Les restrictions chinoises à l'exportation annoncées ces derniers jours ont ouvert une brèche dans un marché très fermé. Les acteurs australiens du secteur entendent bien en profiter. Certains assurent même être idéalement positionnés pour répondre à la demande toujours plus grande.
L'extraction se développe donc en Australie, Marie-Pierre, mais les infrastructures de raffinage manquent.
Oui, les projets miniers sont en pleine expansion. Le traitement de certaines terres rares australiennes dites légères se développe aussi, mais à l'étranger. La principale compagnie du secteur a ainsi bénéficié de fonds japonais pour investir en Malaisie et purifier sa production australienne. Cette même société est aussi soutenue par le ministère américain de la Défense et construit actuellement la première usine de raffinage de terres rares dites lourdes en dehors de Chine. Sur le sol australien, une telle usine pourrait voir le jour, mais seulement en 2027. Ce serait la première dans le pays. Raffiner les terres rares lourdes hors de Chine est plus que stratégique, car ces minerais sont essentiels pour fabriquer des aimants capables de résister à de très hautes températures, aimants utilisés dans le secteur militaire, éolien ou encore automobile.
Et en matière de raffinage, la Chine a pour l'instant toujours un quasi-monopole.
Oui, la Chine produit environ 60% de terres rares, mais sa domination s'exerce surtout par le raffinage, puisque 90% de ces minerais sont traités dans le pays. Cela veut dire que les 3 grammes de terres rares de votre smartphone, les 2 ou 3 kilos de votre véhicule électrique ou les centaines de kilos que l'on trouve dans une éolienne ont très certainement transité à un moment par la Chine, même s'ils ont été extraits ailleurs.
Marie-Pierre Olfon pour votre chronique Matières Premières. RFI, notre grand reportage du jour à bord du Plastique Odyssée, bateau laboratoire qui arpente les mers du monde entier en quête de solutions pour réduire la pollution plastique. À l'occasion d'une longue escale en Polynésie française, le navire s'est particulièrement intéressé à la perliculture, la deuxième économie du territoire après le tourisme et devant la pêche. Très lucrative, mais très polluante. Collier de perles, l'océan en paie également le prix. C'est un reportage de Margot Bédé et Quentin Pommier. Une rediffusion aujourd'hui et tout de suite, un extrait.
On va sortir le moule carré. Vas-y, les bleus.
Moi, je suis Maxime Tiroin. Je suis ingénieur sur l'atelier embarqué de Plastique Odyssée.
Oulala, les gars, il y a la matière à l'autre. Attends.
On vient de réceptionner les déchets perlicoles de Dominique. Et là, on va commencer ce qu'on appelle le pré-traitement de ces déchets, c'est-à-dire qu'on va essayer de les broyer. Donc en ce moment, on est en train de commencer avec les grillages. On pré-découpe les grillages en petits morceaux de 30 à 50 cm qu'on va mettre ensuite dans le broyeur. Et là, on a fait déjà une heure de broyage et on voit déjà les résultats. On voit que le rendu, c'est pas une matière qu'on a l'habitude de travailler. C'est un rendu assez effilochées. Normalement, on a des broyats très solides, très rigides. Là, c'est un mix entre du plastique rigide et souple. Du coup, ça s'effiloche pas mal avec les lames de notre broyeur. Mais ça reste quand même une matière qu'on peut travailler. Donc la suite des événements, là, ça va être de transformer cette matière avec l'extrudeuse et voir ce qu'on peut en faire, si on arrive à faire des planches, des profilés et derrière réussir à fabriquer des meubles avec ces anciens déchets perlicoles. On a un sacré enjeu parce que là, on a fait le tour des atolls pour rencontrer les perliculteurs. Mais le but aussi, c'est d'arriver à Tahiti avec des solutions clés en main, on va dire, où on peut dire à tous les acteurs de Tahiti qui sont impliqués dans la valorisation de ces déchets perlicoles que l'on peut recycler ces déchets, qu'on peut les valoriser et en faire des matériaux avec une nouvelle vie. Du coup, oui, il y a pas mal d'enjeux, on fait pas mal de tests à bord. Et là, arrivé à Tahiti, ça va être un peu le rendu final avec les différentes solutions qu'on aura réussi à trouver et aussi comment adapter derrière cette chaîne de recyclage d'une manière semi-industrielle pour qu'on puisse trouver des entrepreneurs et derrière, eux, arrivent à monter un centre de recyclage semi-industriel.
Ce grand reportage à retrouver aujourd'hui sur notre site et notre application RFI Pure Radio. Pas de diffusion en direct ce mercredi pour cause de foot et la suite des quarts de finale retour de la Ligue des Champions à suivre sur RFI à partir de 20h50, heure de Paris. On en parle aussi dans le prochain journal des sports. Ce sera dans un petit quart d'heure. Restez avec nous.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
En Côte d'Ivoire, le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont claqué la porte de la commission électorale indépendante qu'ils accusent de partialité. Que vous inspire leur décision? On attend vos réactions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.